France Inter, franceinter.com. Nonobstant, Yves Calvi.
Bonjour à tous, l'invité de Nonobstant sur France Inter en ce mardi est Colline Serrault. Bonjour Colline Serrault, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour.
Il y a votre mise en scène du Barbier de Séville de Rossini qui est à l'Opéra Bastille en ce moment. Il a déjà eu une assez longue vie ce Barbier de Séville. La chorale du Delta que vous dirigez, alors j'ai employé l'expression qui me fait rire, qui est utilisée partout, dans l'ombre. Elle dirige dans l'ombre une chorale. La chorale du Delta qui est au théâtre de la Reine Blanche, là aussi jusqu'à la fin du mois. Je donnerai l'adresse dans le cours de cette émission. Je vais même la donner tout de suite d'ailleurs. C'est Passage Rue au métro La Chapelle dans le 18e arrondissement. J'ai bien envie de discuter aussi chant choral avec vous parce que je pense que c'est une expression qui est bien dans l'esprit de ce que vous aimez. Et puis vous êtes en tournage en ce moment d'un film documentaire qui sortira en plusieurs épisodes en quelque sorte dans les salles de cinéma autour de l'alimentation. Je voudrais vous parler de la chorale d'abord parce que je me disais finalement c'est très dans son esprit artistique, c'est-à-dire vibration, émotion et transmission, mais transmission de groupe, parce que la chorale c'est particulier, c'est plein de gens ensemble et c'est une seule voix, donc
oui,
ça vous plaît ça,
ça. Ah, j'adore ça, oui, il n'y a pas de soliste, il y a quatre voix, toutes aussi importantes les unes que les autres, et puis il y a un groupe, et au fond on est juste un catalyseur de ce groupe, mais c'est ce groupe qui fait la chose, qui fait la musique, c'est celui qui dirige n'est juste là que pour... faire le médium entre le public et le chœur.
Mais ça fait combien de temps que vous dirigez cette chorale? Je vous le dis dans l'ombre, ça me fait rire parce que quand vous faites des recherches sur des papiers qui ont été consacrés à la chorale du Delta, ça met assez longtemps avant que votre nom apparaisse, puis brusquement il y a l'expression dans l'ombre, comme s'il y avait à se cacher de ça. Enfin...
Non, mais on se prend.
Mais vous la dirigez la chorale de
ah
fait
bah oui, bien sûr.
Voilà.
Oui,
parce qu'elle est née autour de vous au théâtre des Champs-Élysées en fait.
Elle est née au cinéma. Non, quand on était au théâtre du Rond-Point.
Du Rond-Point, voilà.
À un stage d'AFDAS que j'avais donné pour des élèves comédiens, et puis je leur avais fait faire du yoga, beaucoup de musique, et beaucoup de sport et du théâtre aussi, mais je veux dire il y avait un truc très complet, et puis on a tellement aimé travailler sur cette musique qu'on a fondé cette chorale où moi j'ai fait du chant choral depuis très très longtemps. Et puis cette chorale s'est appelée un temps la chorale du cinéma des cinéastes, et maintenant elle s'appelle la chorale du Delta, et elle a continué. Et on donne des concerts, mais c'est vraiment une chorale d'amateurs. On essaye de faire du très beau boulot. On chante aussi dans des églises. On chante à l'église Saint-Pierre à la fin du mois, là, à rue Manin. On chante à l'église des Arméniens, à Sainte-Croix des Arméniens. On donne des concerts. On donne des concerts tout le mois de juillet et août dans la Drôme.
Dans la Drôme, hein, j'ai vu ça.
Et dans des très très belles chapelles, mais on ne se prend pas au sérieux, c'est des concerts gratuits, c'est vraiment du partage.
Alors il y a du Bach, du Mozart, du Monteverdi, puis du gospel aussi.
Il y a du gospel, il y a aussi, on voudrait bien monter du Schoenberg, enfin, il y a peu de choses modernes, mais quand même, quelques-unes. Oui.
Alors ça tombe bien, parce qu'on pourrait dire qu'artistiquement, ça nous ramène aussi à vos débuts. Vous aviez quand même plutôt commencé par la musique, vous, non?
Oui.
Vous étiez inscrite au conservatoire, en
oui,
classe d'orgue?
J'étais en classe d'orgue avec Micheline Lagache, au conservatoire du 14e. Et ensuite, je suis allée à la Scola Cantorum avec Jean Langlais. Puis, je suis rentrée au conservatoire de la rue de Madrid en esthétique avec Beaufils et en histoire de la musique avec Norbert Dufourcq. Et puis, voilà, je me destinais à être musicienne, quoi.
Même avec des parents qui vous ont fait vivre enfant dans l'univers du théâtre, je dirais, pourquoi vous partez sur la musique et puis finalement, vous revenez, je dirais, toutes les disciplines artistiques sont là tout le temps.
Je crois que c'était une crise d'ado, ça. C'est-à-dire que comme tout le monde faisait du théâtre, je trouvais ça d'une banalité sans nom. Donc, j'aimais la musique passionnément, j'aimais surtout Bach. Et j'ai fait aussi beaucoup d'années de guitare classique pour jouer les suites pour violoncelle, parce que je n'avais pas de violoncelle, et puis je n'avais pas appris le violoncelle, donc j'ai appris un instrument plus facile. Mais je crois que c'était toujours pour Bach, et l'orgue aussi.
Ça continue donc, puisque vous en chantez maintenant encore.
Ah oui, de toute façon, c'est la personne avec qui j'ai le plus vécu dans ma vie.
Mais ça il vous fait. Alors, sa présence, Jean-Sébastien, la présence de Jean-Sébastien, ça vous provoque quoi ou ça vous permet d'aller vers quoi?
Jean-Sébastien, c'est le fondement, quoi. Vous mettez du Jean-Sébastien devant. Vous connaissez cette histoire de l'eau? Quand l'eau est pourrie, quand il y a quelqu'un qui a fait des photos de cristaux d'eau, quand les cristaux se forment. Quand l'eau est très très polluée, les cristaux sont complètement démolis, ils sont asymétriques, ils sont moches, ils sont tout malades. Et puis si vous mettez du Bach, les cristaux se réparent. C'est très intéressant. Hein.
Vous êtes sérieuse ?
Oui, c'est un Japonais qui a fait ça. Ah oui, oui, oui. C'est constructeur. C'est constructeur parce que c'est à la fois intelligent et organique.
Colline Serrault, pendant qu'on est dans la multiplicité des goûts artistiques, la chorale, le trapèze, le cirque, l'opéra, le cinéma, l'écriture, les ateliers. J'oublie des tas de choses. Comment se fait-il que vous ayez envie et besoin de vous exprimer dans autant d'univers différents, qui ont tous en commun d'être des disciplines artistiques, mais autant d'univers différents ?
Je ne sais pas trop comment répondre. Sinon que,
il n'y a peut-être pas de réponse. Hein.
Non, sinon que c'est un seul et même torrent qui peut s'appliquer sur. C'est comme les gens qui composent. Ils composent une fois pour un quatuor ou pour une symphonie, un orchestre ou pour un soliste. En fait, c'est toujours la même discipline. Hein. C'est regarder le monde et le transmettre. L'art graphique aussi, beaucoup.
Alors, sauf que quand on gratte un petit peu et que on se demande quand a eu lieu votre rencontre, on pourrait dire avec le grand public, on se rend compte que l'humour est toujours présent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un moment aussi où vous dites, quelle que soit la forme dans laquelle je vais travailler, c'est quand même par le rire que je vais communiquer avec mes contemporains.
Ah oui, ça, oui, c'est sûr. Mais ça se décide pas. J'ai jamais décidé ça. J'ai jamais décidé, tiens, je vais faire rire. C'est ça. Non. Non, vraiment. Hein. J'ai plutôt décidé que j'allais parler du désespoir de ce monde.
Oui.
Et plus j'en parlais, plus ça devenait drôle. Quoi. Mais c'est plutôt ça l'histoire.
Vous voulez dire que la forme comique, elle vient quand vous avez finalement envie de nous transmettre des choses qui sont...
Par exemple, oui, Trois hommes et un couffin, c'est quand même l'histoire d'un abandon.
Oui.
C'est l'histoire de trois crétins, quand même, qui finissent par devenir intelligents, on est d'accord, mais... avec un Christ féminin. C'est tout un retournement de mythe et c'est comme ça aussi par la subversion et le retournement, comme le mythe de Cendrillon avec Romuald et Juliette, avec Daniel Auteuil. Je retourne des mythes pour essayer de secouer un peu notre vision et la mienne aussi du monde. J'apprends aussi en faisant.
Alors, je veux dire, ça vous vient spontanément ou il y a un moment où vous vous êtes dit, ça sera mon mode d'écriture et finalement, ma signature d'auteur, là, je dis bien d'auteur, elle est de prendre ça et de regarder un peu différemment.
Je me suis jamais de plan comme ça. Non, ça vient tout seul. Ça vient, c'est très compulsif, la démarche artistique ou de création. C'est un truc qui vous vous levez à 6 heures et il n'y a pas moyen, il faut le faire. Enfin, c'est quelque chose de très compulsif. C'est un truc qui vous pousse, quoi. C'est difficile de résister.
Donc, vous mettez facilement à la table de travail, parce que vous ne l'apercevez pas comme une table de travail.
Non, pas du tout. Non, pour moi, c'est un jeu, une excitation, une envie.
Je peux vous parler un petit peu de votre enfance avec Jean-Marie Serrault et Geneviève Serrault. Je voyais une interview assez émouvante et ancienne où vous disiez, écoutez, on a vécu comme des privilégiés de la culture, mais nous étions d'authentiques clochards. Alors, je me suis dit, tiens.
Non, c'est vrai que c'était des gens qui. Mes parents étaient des gens qui étaient issus de milieux très cultivés et plutôt de la bourgeoisie. Mais ils se sont retrouvés tous les deux après-guerre, complètement fauchés. Et mon père dépensait rigoureusement chaque centime et il vendait les meubles et les livres et tout pour ses décors et pour ses spectacles. Donc, on s'est retrouvés avec les huissiers. Et pendant à peu près toute mon enfance, on a eu les huissiers. Alors, clochard, non, mais enfin, disons, on vivait dans les décors de théâtre, déjà, parce qu'il n'y avait pas d'entrepôt, donc on avait vécu dans les chaussures dessinées par Ciné pour Amédée de Ionesco, dans les champignons phosphorescents aussi, du même spectacle. Il y avait un trône qui sortait d'un spectacle de Kafka, il y avait plein de trucs comme ça, des décors, des costumes, c'était un capharnaüm chez nous. Et d'autre part, ma mère recueillait beaucoup de réfugiés politiques, donc on a eu... tous les Algériens du FLN et du MNA, on a eu ensuite les Chiliens, on a eu les Vietnamiens, enfin, et puis des gosses en difficulté dans une école que ma tante dirigeait dans le Midi. C'était un peu, oui, c'était une maison comme ça.
Mais je vous comprends bien, parce que les meubles dans lesquels vous avez vécu parfois, c'était bien des éléments de décor.
C'était des éléments de décor.
Et alors vous avez porté des vêtements qui étaient des costumes de spectacle.
Les costumes, on s'est beaucoup costumé, oui, bah oui, on avait tous les costumes des spectacles qui étaient là, à se faire miter, on avait des valises de gens qui passaient, qui repartaient et qui laissaient les valises. Enfin oui, c'est un monde très particulier là, le monde d'enfants, avec des angoisses d'argent, beaucoup beaucoup d'angoisses d'argent. Donc aussi, ça c'est une richesse que j'ai eue au fond, parce que je à la fois d'être dans ce milieu hautement cultivé, bon, qui ma mère dirigeait avec Nadeau une des plus pointues revues littéraires, et mon père était dans l'avant-garde absolue avec a découvert parmi les plus grands auteurs de importants.
Il a monté du Beckett, du Ionesco,
de Rabal, Césaire. Il a été le premier.
Voilà tout ce qui est important après la guerre. En fait.
Et en même temps, chaque fois que quelqu'un me dit qu'il n'arrive pas à finir son mois avec son budget, je suis complètement, de plein pied avec le cœur.
Vous le ressentez dans le plexus, enfin, c'est quelque chose que
je ressens dans ma chair, oui.
Vous leur en avez un peu voulu par moment, de ce mode de vie, ou même enfant, vous disiez c'est formidable, c'est notre vie familiale. Enfin, vous ne vous posiez pas la question.
Non, on ne juge pas quand on est gosse, on vit dans un milieu, on vit dedans. Il y avait suffisamment d'amour pour être heureux, voilà.
Et quand vous voyez débouler tout ces... Enfin, c'est extraordinaire parce qu'on comprend bien que vous côtoyez aussi bien des grands du théâtre que des types qui déboulent de passage, hein, qui sont accueillis pour des raisons politiques. Vous nous avez dit, beaucoup de réfugiés politiques. Cette ouverture au monde et à des cultures si différentes, est-ce que vous en avez des sensations, des visions?
Oui,
des...
je pense que ça m'a beaucoup nourri. J'ai beaucoup vu Beckett, j'ai beaucoup vu... on l'aimait beaucoup, on l'admirait beaucoup à la maison. C'était quelqu'un de très modeste, de très humain. Disons que j'ai côtoyé des grandes pointures, ce qui m'a donné aussi le sens de la modestie, parce que c'était pas des gens qui... Plus ils étaient grands, plus ils étaient modestes. Et donc tout le cirque qui y a un petit peu quelquefois, comme ça, autour de certaines personnes qui n'ont pas la même valeur, ça me fait un peu rigoler, quoi. Voilà.
C'est-à-dire que vous avez pensé... vous me dites que moi j'ai croisé des vraies valeurs, quoi.
Oui. Oui, des gens vraiment bien, et des gens qui se battaient aussi. J'ai croisé des militants importants, des gens, et puis des gens qui étaient dans le social aussi, de toute cette école de Beauvallon dont je suis issu, qui étaient des gens qui ont fait la résistance à Dieulfi, qui après ont été célébrés comme des justes, etc., parce qu'ils avaient sauvé des gosses. C'est des gens avec qui on vivait, qui ont fait des choses magnifiques, quoi, et puis qui s'en sont jamais vantés, et puis qui étaient aussi dans très, très modeste et dans le concret, qui changeaient les chaussures des gosses, choses comme ça.
On va écouter Maxime Le Forestier, Colline Serrault.
Qu'un jour les choses le temps parose, les événements nous imposent la fin des sentiments. Qu'un jour se suivent les invectives, les égarements, la dérive, chacun séparément. Quoi qu'il arrive, restons amants des hôtels sombres, des rendez-vous dissimulés, où vont s'entrelacer les ombres, aux dangers mélangés. Restons amants des plages vides, où novembre aime à nous jeter, laissons frémir aux vents avides. Car si les regards indifféremment nous séparent de plus en plus souvent, même si se tiennent ta main la mienne, pour la fin des temps que nos vies deviennent celles de tous les gens. Quoi qu'il advienne, restons amants des impatiences, des minutes qui sont comptées, des trésors de ruse et de science pour se retrouver. Restons amants des corps à corps, des peaux qui savent où se trouver. Laissons les cœurs qui battent encore l'un à l'autre mêlés. La petite mort, l'éternité,
c'est une nouveauté. Beauté, dernier titre de Maxime Le Forestier intitulé « Restons amants ». L'invité de Nonobstant aujourd'hui sur France Inter est la réalisatrice et auteure Colline Serrault. On évoquait votre enfance dans les décors de théâtre et avec ce personnage si particulier que vous avez croisé, enfin de très grande qualité artistique et humaine, nous disiez-vous. Juste une chose, vos parents se sont connus dans la Résistance ?
Oui, à Lyon, à Jeune France, oui. Tout le mouvement des auberges de jeunesse et des...
C'est pas rien. Hein. Enfin, et cette ville, et ce que vous êtes en train de décrire à l'époque, ça veut dire qu'ils ont vécu et vu des choses rudes.
Oui, et puis ils avaient faim. Et ils ont perdu. Ma mère a perdu pas mal de ses dents hein, pendant cette guerre. Elle a eu très faim. Et puis elle a participé à la résistance dans la Drôme après. Mon père a fait passer des gens aussi la ligne de démarcation. Enfin, ils étaient très militants déjà.
Alors, on n'échappe pas à ça, finalement.
Enfin, non, c'est les enfants. Oui, il n'y a rien de très... Moi, je trouve que quelqu'un qui naît dans un milieu voilà. Vraiment de collabo, par exemple, ou d'extrême droite, et qui devient autre chose, c'est beaucoup plus, disons, méritoire que moi, qui était vraiment né dans un milieu de résistant naturel, et même de par la culture protestante, qui est une culture quand même aussi de discussion des textes et de démocratie, avec aussi des rigidités, mais une certaine rigueur de pensée.
Alors, on discutait du fait que votre mère, Geneviève Serrault, était une fille de pasteur, elle était élevée à Oléron, et vous me disiez, oh là, il y avait une douzaine de pasteurs dans la famille. Mais vous avez vécu ça
plus... Elle est née à Oléron. Oui, son père était... Il venait de la Drôme, de la, toute la grande tradition parpaillote de la Drôme, et il était frère de 12 pasteurs. Ils étaient 12 pasteurs, voilà. Donc c'était vraiment...
C'est une aventure.
Je ne sais pas si tout le monde avait vraiment la vocation, mais il n'y avait pas de discussion. Ils devaient être pasteurs, c'est tout.
Alors, vous me disiez au début de cette émission que vous étiez en préparation ou en tournage de votre film sur l'alimentation.
Mais ça fait un an et demi que je tourne un film qui s'appelle « Solution locale pour un désordre global ».
Oui.
Et qui est en grande partie, oui, qui est partie de Pierre Rabhi et de son mouvement Terre et Humanisme, et qui est en grande partie sur la problématique de l'agriculture, en tout cas. Donc j'ai tourné en Inde, au Maroc, et là je vais partir en Amérique latine et en Ukraine. Donc ça fait un an et demi que je tourne et que je monte en même temps ce film, qui est un film vraiment militant sur le désordre. Le désordre général, global.
C'est bizarre comme question, mais je peux savoir quelles sont les images que vous avez, vous, en tête de ces éléments de tournage que vous avez en ce moment. Ou peut-être même, j'allais dire, des parfums ou des sensations, parce que, qu'elles soient cruelles ou belles, parce qu'il doit y avoir les deux.
Oui. Il y a les deux. Il y a en Inde, par exemple, le travail que fait Coco Pelli avec Dominique Guillet. Il y a un certain Stéphane qui est merveilleux, qui essaye de sauver les paysans indiens du suicide, parce qu'ils sont tous... Ils ont été attrapés par Monsanto et par les graines qui sont pas reproductibles, les pesticides, les intrants qui démolissent leurs terres et qui les endettent. Et en fait, ils sont là, c'est des rapaces qui veulent leur piquer leurs terres, c'est tout. Coco Pelli est en train d'apprendre, comme au Maroc, de leur dire, mais vous avez, vous, dans votre tradition, de quoi vous nourrir par vous-même.
Alors, ce qui est très important dans ce que vous venez de dire, qu'on oublie, c'est que quand même l'histoire de l'humanité, de l'agriculture, elle s'est faite avec des gens qui, chaque année, prélevaient quelques graines de leurs propres graines pour ressemer l'année d'après. Et là, on comprend bien, notamment, alors, bon, c'est Monsanto, mais il y a d'autres industriels de l'agroalimentaire qui sont dans ce genre d'histoire, c'est qu'ils ne peuvent même plus replanter leurs graines.
Ni vous, hein, d'ailleurs, vous achetez des tomates quelque part, dans n'importe quel magasin, elles sont stériles. Alors que la nature est d'une générosité frénétique, je veux dire que pour un grain de riz, vous avez 400 grains de riz. Vous rendez compte de la générosité de la nature ? Eh bien ça, c'est pas permis, ça. Il faut l'acheter maintenant, le grain de riz, à chaque fois. Alors que la nature vous le donne. Et puis tout ce travail de sélection extraordinaire de toutes les variétés que, depuis des millénaires, des paysans ont fait, puis qui fait qu'on est là, hein, parce qu'on ne va pas manger nos cartes de crédit ni nos CD quand ça va aller mal. Hein. Et ben tout ce travail-là, qui est notre patrimoine commun, il faudrait que les gens le rachètent. Et nous, on doit le racheter, ça, mais on est là parce que ces gens ont fait ce travail. Alors en Inde aussi, ce que j'ai vu, moi, c'est des montagnes grandes comme 5 fois le Sacré-Cœur, 10 fois le Sacré-Cœur, d'ordures. Où pèsent les vaches. J'ai vu des rivières où, si vous mettez la main, vous ressortez avec des pustules. C'est ça l'état du développement en Inde. Et alors on vous dit, oh, c'est merveilleux, les pays émergents. Enfin, ça dépend pour qui. Ça, c'est les images tristes. Et puis, c'est les images d'un type comme Bourguignon, qui est Claude Bourguignon, et sa femme Lydia, qui sont des gens absolument magnifiques, qui s'occupent de la microbiologie des sols.
Voilà.
Depuis 20 ans, les chaires de microbiologie des sols dans le pays, dans le monde entier, ont été supprimées. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il y a 150 ingénieurs agronomes en France qui sortent tous les ans, qui ne savent même pas que le sol est vivant, qui ne pensent qu'en intrants chimiques et en pesticides. Alors que la Terre, elle peut vivre par elle-même. Mais quand le pétrole va coûter, je sais pas moi, 20 euros le litre, on va faire comment avec les intrants? On va manger comment? Encore une fois, vous n'avez pas mangé votre micro, là. Il ne va pas vous nourrir, celui-là.
Il
va falloir qu'on trouve des solutions. Voilà, c'est ça, c'est sur quoi le film. Alors, comme on mange encore bien, les supermarchés sont pleins et tout, on n'est pas dans cette problématique. En ce moment, on se dit, ça va aller pour nous.
Cette problématique parce que, tout simplement, on ne voit pas la photo se rapprocher, en quelque sorte.
Elle se rapproche vite. Hein.
Vous allez le sortir en plusieurs épisodes?
Mais oui,
enfin, en plusieurs épisodes, c'est un drôle de...
Il y a tellement de gens magnifiques qui parlent et qui disent des choses tellement belles que personne ne dit et qu'il faut que les gens entendent qu'on va faire... je vais faire 6 films d'une heure et demie qui vont sortir en feuilleton en salle à partir de janvier, un film tous les mois, pour parler aux gens de leur monde, de comment il faut qu'ils se sauvent.
Ça nous ramène même, j'allais dire, à la production et à la sortie de votre premier film, qui était déjà un documentaire. Mais qu'est-ce qu'elles veulent, non? C'est vrai que c'est Antoinette Fouque qui a fini par vous donner 50 000 balles dans une enveloppe pour pouvoir tourner votre film.
Jamais je pourrais assez la remercier, c'est elle. Je l'ai rencontrée dans un bistrot. Elle avait été, à une époque, quand elle passait son CAPES, elle était stagiaire dans une école à Claude Monet où j'étais lycéenne. Et elle m'avait repérée dans la classe parce que je lisais beaucoup. Je n'écoutais pas grand-chose et je lisais beaucoup. Et donc après, quand je...
Elle vous a repéré comme cancre, concentré sur sa littérature.
Cancre, ah oui. Concentré sur quand même
lire des textes.
Sur la lecture. Oui, oui. Ouais. C'était un bouquin ou deux par jour. Donc elle a bien vu qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas tout à fait dans le système, mais qui en même temps avait du désir de savoir. Et quand je suis allée la voir en 1974, pour lui demander si... Parce que comme personne ne voulait me donner des sous pour faire un film, en tout cas pas les gens à la télé, ou comme ça, ils me disaient tous, mais on ne vous connaît pas. Et puis moi, j'avais 20 ans, là.
Vous étiez refusé pour différentes raisons, si j'ai bien oui. compris ce que j'ai lu. C'est qu'entre autres, qu'est-ce que vous disiez? Je suis producteur, vous voulez me convaincre de faire... Mais qu'est-ce qu'elles veulent à l'époque? Vous me dites quoi?
Je dis, je veux faire parler des gens, mais pas des gens connus. Et je veux qu'ils disent leur vie. Mais ça passe pas, ça. Ça passe pas. Mais attendez, vous avez qui comme gens connus? J'ai personne, j'en veux pas des gens connus. Je veux les gens qui parlent. Et la seule qui m'ait écoutée, qui m'ait dit « mais ça c'est bien », c'est Antoinette Fouque. Alors elle m'a donné une enveloppe de 50 000 balles et je suis allée direct chez Éclair. Et j'ai acheté...
Ce sont les laboratoires, je le rappelle.
Oui, voilà. À Éclair, enfin chez Kodak, et j'ai acheté pour 50 000 balles 2 pellicules. J'ai pas pensé à autre chose,
oui.
Je voulais bouffer de la pellicule. Donc là, après, je suis partie pendant 6 mois avec un copain, Jean-François Robin, qui était un type merveilleux, avec qui tous les deux, on a fait ce film en 16 mm avec notre matériel. Moi, je faisais le son avec un petit Nagra, prêté par La Chassagne et Copra Film, qui étaient aussi des gens qui m'ont vachement aidé. Puis après, on a monté avec Doyon, avec la salle de montage de Doyon, et la fille de Tati, Sophie Tatichev, qui a aidé à monter le film. Ça a été un truc comme ça, à la sauvage, à l'arrache. Et puis quand on l'a montré, les gens sont... Et c'est après, Lina a terminé le film, il est sorti, il est resté 6 mois en salle à Paris, parce que c'était une vraie parole. C'était pas du formaté.
Il y a quand même souvent eu des choses de ce type dans votre carrière de réalisatrice, c'est-à-dire des choses qui sont difficiles et puis après ça devient l'évidence. Quel effet ça vous fait? Toute proportion gardée, 3 hommes et 1 couffin, fonctionnant par bouche à oreille et restant toujours dans la liste des 10 plus gros succès du cinéma français de tous les temps, hein, je le rappelle.
Oui, ça m'encourage quand il y a des échecs ou quand il y a des doutes aussi, parce que moi j'ai des doutes, je sais pas toujours si c'est bien ce que je fais, mais... Quand je me dis que le producteur de ce film, 3 hommes et 1 couffin, quand il voyait les rushs, me disait « mais il y en a marre de filmer des bébés, on fait un reportage sur les bébés », ou bien quand il me disait « t'arrêtes de tourner parce que ça suffit », et que je lui disais « va jouer avec tes crottes de nez », j'ai pas du tout eu de soutien de ces gens-là. Et puis après, tout d'un coup, c'était « ah, ils sont devenus le producteur du film ». On se demande vraiment, les retournements de veste et les trahisons, on vit dedans. Et puis les gens qui comprennent pas ce qui se passe en fait, vraiment, quand on fait une chose, on vit dedans. Mais vous savez, quand vous regardez l'histoire de l'art, hein, Schubert, il est mort quasiment de froid sans piano. Mozart a été enterré. Bon, on dit, ouais, y a des discussions sur l'histoire, que ce soit dans une fosse commune ou pas, mais bon. Et quant à Van Gogh, j'en parle même pas. Donc, les gens comprennent pas toujours. La Belle Verte, ça a été un bide cuisant. Maintenant, c'est un film culte. On m'en parle plus que 3 hommes et 1 couffin. Donc, ça veut dire que des fois, vous êtes en face, des fois, vous l'êtes pas. Il faut continuer dans ce qu'on croit qui est juste. et dans ce qu'on croit qu'on doit faire.
Oui, voilà. Au minimum, votre vérité artistique du moment.
Voilà. On n'a que ça à quoi on peut obéir, et on y obéit. Et on doit y obéir, voilà.
Je voudrais vous parler d'un de vos comédiens. Alors là, j'allais dire, c'est une conversation de journaliste masculin, réalisatrice femme. Je pense que Vincent Lindon est devenu une sorte de symbole, on va dire, du malaise de l'homme blanc de 40 ans en milieu favorisé.
Oui, pardonnez-moi. Le mal occidental.
Vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc, j'ai l'impression que vous me parlez beaucoup à moi et donc que vous parlez à beaucoup d'hommes dans cette situation. Oui. Quand vous le filmez, il est extraordinaire dans vos films. Oui. Voilà. Il est devenu ce symbole-là, effectivement.
Oui, le symbole du mal occidental qui ne va pas bien.
Voilà. Pourquoi on ne va pas bien, docteur Serrault?
Et en même temps, j'en sais rien, si je savais, parce que vous savez, les femmes ne vont pas tellement mieux non plus, tout le monde va mal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vincent Lindon, j'ai une grande tendresse pour lui. Et j'ai la même tendresse pour le mal occidental qui va mal. On est condamné à s'entendre et à s'aimer. Hein, donc il faut Moi, je parle beaucoup des hommes parce que je les aime. Et que je voudrais qu'on puisse vivre ensemble mieux. Voilà.
On ne peut pas dire qu'on sorte très valorisé de vos films, si je puis me permettre.
Mais bien sûr que si. C'est des gens qui sont capables de faire des chemins. Je montre des gens qui sont capables de changer. C'est la plus belle qualité humaine.
Vous avez une relation à vos films qui est une relation maternelle. Est-ce que c'est vrai que les films sont des enfants et que les œuvres d'art continuent à vivre comme ça? Enfin, là, du coup, je m'adresse à la,
oui, oui,
bah, à la créatrice et à la mère, par
oui,
définition.
Oui, parce que par définition, on les fabrique du mieux qu'on peut. On les lance dans ce grand monde. Et puis ensuite, vraiment, c'est leur problème. Il faut qu'on leur lâche la grappe, quoi. C'est le cas de le dire. Et donc, c'est pareil pour les films. Maintenant, ils vivent par leur vie à eux. S'ils sont importants, ils vont devenir importants, mais c'est pas moi qui vais le décider. I waited for so long outside myself. You see, I was pretending to be someone else. I was longing to see who I wanted to be. And I've been waiting on my own. I've been waiting for too long. Not strong enough to be with you. And I've been making up my world. I've been painting it with gold. Not strong enough to see you. Oh. Strong enough to see you.
C'était Yael Naïm, tout long, invité de Nonobstant aujourd'hui sur France Inter, Colline Serrault. On était en train de parler de chaos tous les deux, parce que j'ai re-regardé ça hier soir en famille pour préparer cette émission. Vous avez des enfants, vous ?
Oui.
Je ne veux pas vous en faire parler pendant des heures, parce que votre oui me laisse déjà entendre que vous n'êtes pas...
Je ne suis pas une fan d'en parler, mais j'en ai trois, oui.
D'accord. il s'intéresse aux arts et spectacles, si vous m'entendez.
Oui, bien sûr. Oui, voilà. Oui, il y en a une chanteuse de jazz, une... Voilà. Un qui veut être philosophe et l'autre qui est réalisateur. Voilà.
J'aime bien l'idée. Un qui veut être philosophe, c'est ça se décide.
En tout cas, c'est que ça qui le passionne.
Non, parce que vous savez que le texte de Geneviève Serrault, votre mère, que je le lisais là dans les cahiers Renaud Barrault, paru chez Gallimard, une introduction à l'histoire du Nouveau Théâtre, elle parle justement de ces auteurs, alors Beckett, Ionesco, etc. Et elle pose la question de la philosophie. Elle dit que ce ne sont pas des philosophes, ce sont des vrais dramaturges, sauf Beckett, dont elle explique qu'il est juste à la lisière.
Oui.
Donc un jour, vous direz à votre fils, t'es philosophe ou tu l'es pas. Bon, j'ai senti que j'allais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. On va revenir au cinéma, si vous le voulez bien. Une aventure comme le film que vous tournez en ce moment, c'est quoi, 2 ans, 3 ans de votre vie ?
Oui, ah oui. Et là, j'ai arrêté toute fiction, hein, ce qui est pas confortable non plus.
Voilà.
Parce que j'étais là encore une fois poussée par une impérieuse nécessité de faire ça, quoi. Il me semblait que c'était la chose que je devais faire maintenant. J'avais plus envie de fiction maintenant. Maintenant, j'ai un autre sujet de fiction qui va être formidable avec Muriel Robin, que sur lequel je vais travailler cet été, que je veux faire. Mais il fallait que je fasse ce film sur l'état écologique du monde, quoi. Et non pas avec les constats qui ont été magnifiquement faits par avec tous ces films qu'on a vus sur l'écologie, mais un film qui propose des solutions, un film qui propose une alternative de société, une alternative, une révolution des consciences et des alternatives très concrètes qu'il va falloir mettre en place si on veut s'en sortir, quoi.
Vous avez vu le film de Jonathan Nociter consacré au vin, Mondovino ?
Oui, bien sûr.
Voilà,
oui.
C'est un bel exemple de film documentaire où on se rend compte qu'on peut toucher un grand public avec un thème qui a l'air microscopique au départ.
Oui, mais qui touche tout. Le vin, c'est très important. Je veux dire, la culture du vin et comment on a démoli le terroir. C'est la même histoire que l'alimentation.
Hein. Alors, Claude Bourguignon, que vous citiez tout à l'heure, connaît tout ça par cœur.
Ah,
parce
par
que
cœur,
lui,
oui,
il étudie aussi
expert,
la vigne. C'est le grand expert.
Pour les vignes, maintenant. Il parcourt le monde entier. Il est seul, puisqu'ils ont supprimé ces abrutis, toutes les chaires de microbiologie des sols dans le monde. Donc il reste Claude Bourguignon, quoi.
Je vous interrogeais tout à l'heure sur le malaise de l'homme blanc de 40-50 ans, incarné par Vincent Lindon dans vos films. Est-ce que, dans les rencontres que vous faites en ce moment, quand vous êtes en Inde ou aux quatre coins de la planète, le regard que portent les gens que vous rencontrez sur nous et sur notre mode de vie, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Est-ce qu'on oublie ? C'est intéressant,
c'est-à-dire en Inde,
ce contre-plan, en quelque sorte. Ils nous perçoivent comment ?
Il y a des tas de perceptions différentes. En Inde, par exemple, quand vous parlez avec des gens, il y a les écologistes, enfin, il y a ceux qui essayent tout simplement de sauver les gens là-bas. Et une des façons de sauver l'Occident, c'est que les gens restent là où ils sont et qu'ils aient des moyens de survie, alors qu'on a massacré et leur territoire et leurs moyens de survie en Afrique et partout. Donc ça, c'est la première chose, c'est de dire arrêtez de mettre les mains sur eux et juste laissez-les faire leur truc à eux, comme ils savent le faire. Mais alors ça, il y a le regard de ces gens-là, mais il y a le regard aussi des gens qui sont au gouvernement, enfin j'en ai pas rencontré énormément en Inde, mais quelques-uns, qui disent, écoutez, ne nous donnez pas de leçons. Vous êtes, vous, les premiers à avoir démoli tout. Alors, nous, on va se développer. On va se développer comme on a envie. Et si on veut des voitures, on aura des voitures. Sauf que j'ai 4 heures de reportage sur les voitures là-bas. C'est quelque chose entre les poubelles et les vaches qui passent dans les voitures. Les troupeaux de vaches, qu'après, dont on mange le lait. Je veux dire, pour que ça se développe comme ça se développe là, il faudra 30 planètes. On ne les a pas. Alors, on fait comment ? Il va falloir qu'on commence à penser à décroissance. Ça, c'est pas un thème électoral, hein. Mais il y a un slogan qui pourrait dire, pour certains, en tout cas pas pour les plus pauvres, mais devenez riche, n'achetez plus, quoi. Et là, on va pouvoir commencer à se poser les vraies questions.
En tout cas, ça va pas être facile d'expliquer à 1 milliard de Chinois et 1 milliard d'Indiens qui, quand même, globalement, ont envie de vivre comme nous, qui seront privés de tout ce à quoi nous avons eu droit.
Hein. Ah ben non, ils vont pas accepter, hein. Donc il va y avoir des conflits aigus sur les ressources. 30 planètes, on les a pas, on en a qu'une. Va falloir qu'on s'habitue à cette idée-là. Qu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. il y a un problème de décroissance rapide là.
En vous entendant parler de ce documentaire qui est donc votre actualité de tournage en ce moment, oui. On se rend compte qu'on est aussi dans tous les films précédents, même les fictions. C'est-à-dire que finalement, votre propos...
Il n'a pas changé.
Il est là. Hein?
Non, oui, il n'a pas changé, il est là depuis toujours, oui. C'est le même.
Il y a un auteur de théâtre, en préparant cette émission, je me disais, mais en fait, elle baigne dans du Shakespeare, c'est-à-dire qu'elle est dans la réalité permanente, elle parle de la vie des gens, elle parle de notre vie, en fait, et on peut passer rapidement du rire aux larmes. Donc, on pourrait dire que c'est votre univers mental, théâtral et d'inspiration, celui de Shakespeare.
Oui, Shakespeare, je l'ai beaucoup joué, et c'est vraiment, avec Molière, quoi, le fondement de tout le théâtre. Comme Bach, c'est le fondement de la musique, comme Rembrandt, le fondement de la peinture, c'est Shakespeare qui voit le monde réellement et qui aussi sait en rire dans le désespoir et utiliser toutes les splendeurs de la langue. Et puis, puise son inspiration dans les grands mythes aussi, très important ça, dans les grands mythes populaires. Le roi Lear, c'est un conte, c'est un vieux, très ancien conte. Et c'est ça sa force, comme Molière d'ailleurs, qui a piqué tous ces canevas chez les Latins, qui eux-mêmes les avaient piqués chez les Grecs, qui les avaient piqués avant chez les Égyptiens et toutes les grandes mythologies. Donc je veux dire, c'est des gens qui ont à la fois cette démarche, cette puissance personnelle de création, mais qui sont en contact avec les fondements de l'humanité. Et ça, dans la culture du XXe siècle particulièrement, une espèce d'orgie, de baudruche, d'individualisme la glorification absolue de l'individu qui fait que les gens ont inventé la brouette, plus ou moins, quoi. Alors qu'il y avait toute cette énorme culture. C'est comme les graines. Prenons les graines que nos ancêtres ont sélectionnées et utilisons-les. C'est pareil dans la culture. On ne va pas tout réinventer demain là, avec nos petits trucs minables. Il faut qu'on aille drainer là où c'est fort.
Mais vous allez vous retrouver avec combien d'heures de rush là pour votre... Je me dis,
on en est à 100 là.
Mais il va falloir tout re-regarder, Colin. Rush, je ne vais pas vous dire, vous rush, soyez raisonnable, mais vous allez tout vous retaper en retour
On est en train de le faire, oui, on en a déjà des rushs.
Mais vous dites « on », ça m'inquiète un peu. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas tout re-regarder?
Moi je regarde tout.
Vous regardez tout, hein.
Oui, on est deux, on est un monteur, et moi, Claude Trinquet, et moi, voilà.
Bon, bah dites donc, on a combien d'épisodes, vous m'avez dit à la...
Oh, je pense qu'à l'arrivée, ça fera 6 heures.
J'ai retrouvé une interview assez amusante où vous évoquez le climat qui entoure à un certain moment les femmes réalisatrices dans le cinéma français.
Ah oui.
Et oui, c'est drôle parce que c'est inattendu. Bah, vous allez voir. Et vous dites qu'il y a un moment donné en France, en 75 à peu près, dans le cinéma, il y a eu un tel besoin de se rattraper vis-à-vis des femmes qu'on tombait dans l'excès contraire. Et les jeunes réalisatrices, on était parfois gênées vis-à-vis de nos collègues hommes quand on se voyait accorder des avances, des facilités qu'ils n'avaient pas. Il y a eu une trentaine de femmes qui se sont mises à réaliser à cette époque. C'est étonnant parce qu'on ne vous imagine pas dire ça. Et en fait, ça veut dire que vous avez été assez lucide pour vous rendre compte qu'il y avait une espèce d'effet balancier, si vous voulez mon avis, totalement artificiel, hein, mais qui a bien eu lieu.
Oui, qui a eu lieu.
Donc voilà.
Et puis qui était sûrement bénéfique quelque part. Ça a été très 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 bref. Hein. On va pas.
D'accord.
Non, mais non, c'est toujours ça aussi. Quand on me dit, est-ce que vous êtes féministe? Non, je suis pas féministe. Je défends pas ma boutique. Je peux pas supporter l'injustice. Voilà. Quand elle touche les hommes, j'irai me bagarrer pour eux. Et puis si ça touche les femmes, c'est quand même malheureusement la majorité. Ben, je me bagarre pour eux.
Mais c'est ce qui m'a touché, c'est que vous soyez capable de le reconnaître. Mais en effet, c'est une période assez courte.
Très bref, hein, on va dire ça. Très, très bref. Si vous voyez ce qui se passe à l'opéra en ce moment... Toutes les femmes sont systématiquement écartées de la mise en scène d'opéra. C'est gravissime.
Comment ça? Pourquoi?
Les femmes mettant en scène d'opéra n'ont plus de... Moi déjà, on peut commencer par moi.
Bon, ben vous ne manquez pas de toupet, je suis allé voir le Barbier de Séville, la salle était pleine, les gens étaient... Ben oui, mais...
Oui, non, mais moi je ne manque pas de toupet. Non, je suis hyper heureuse que ça soit repris et ça va être encore repris en 2009, en 2010, en 2012. J'ai eu comme commande à l'opéra 2 mises en scène et c'est Hugues Gall qui me les a commandées. Et depuis, rien. Les salles sont bondées. Les gens, je pense, aiment bien le spectacle. Ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs. Mais il y a plein d'autres femmes formidables qui font des mises en scène. Elles ne travaillent pas. à l'opéra. Il y a une espèce de haine des femmes, mais quelque chose des femmes mettant en scène. Et là, je le dis pas pour moi, pas pour ma boutique, mais pour les autres, pour les jeunes, pour les filles qui veulent faire des très belles mises en scène à l'opéra. Il y a une espèce d'omerta sur ça qui.
Mais vous rendez compte de ce que vous dites, c'est-à-dire que vous pensez que volontairement on empêche les femmes d'accéder à la création au sein des opéras de Paris.
Je pense que les gens ont peur. Hein, oui, je pense qu'il y a une peur des femmes là. Oui, très nettement, je l'affirme.
Ben si j'avais su ça, j'aurais interrogé Gérard Mortier, avec qui on a fait une interview passionnante récemment et qui parle si bien de son métier. Parce que, voilà.
Ah ben, il est merveilleux, Gérard, mais...
Je sais pas, il faut lui envoyer un petit Bristol pour lui dire... Enfin, c'est lui, il s'en va, donc c'est le prochain qui...
Non, il faut que les femmes, massivement, en tout cas, de façon paritaire, aient des responsabilités dans la culture, parce qu'elles en sont capables et parce qu'elles ont des choses même merveilleuses à dire, pas plus, pas moins.
Vous pensez que c'est un vrai problème ?
Ah,
je vous avoue, je le découvre en vous écoutant.
Et puis si vous pouvez interviewer, enfin là, je parle pas spécialement pour moi, parce que moi, je peux vivre d'autres choses, etc. J'aimerais passionnément faire plein de mises en scène d'opéra. Et on m'en demande pas. Bon, mais à part que ce que je fais, c'est tout le temps repris. Il y a eu 6 reprises de la chauve-souris, et là, on a la 6e du Barbier. Bon, mais il y a d'autres femmes metteurs en scène qui ont fait un boulot formidable. Je veux pas citer de nom parce que je veux pas embarrasser les gens, et qui ne bossent plus, quoi.
J'aimerais vous poser une dernière question sur la direction d'acteur. Est-ce que le fait d'être comédienne, ça change effectivement les choses quand on doit diriger ses consoeurs et ses confrères ? Est-ce que vous aimez ça, hein ? Je crois que vous aimez les comédiens et vous aimez les diriger.
Et puis j'aime jouer.
Oui.
Je ne peux pas dire qu'on a parlé tout souvent de diriger, c'est-à-dire que les accompagner dans leur création, parce que...
C'est le mot diriger qui vous fait peur ?
Non, ça ne me fait pas peur. Je l'ai employé très, très longtemps, très souvent. Voilà. Et puis je vois maintenant que peut-être aussi je prends un peu plus de distance. C'est beaucoup les accompagner. Mais comme je connais de l'intérieur leurs angoisses, leurs souffrances, leur ego des fois monumental, et tout ce qui va avec, parce que aussi il faut avoir un certain ego pour oser se montrer comme ça. Oui, je compatis, j'ai de la sympathie, énorme sympathie pour eux. Et puis des fois aussi, il faut un peu les recadrer, des fois.
On va se quitter sur cette dernière notion. Tant ça autre, il faut les recadrer, les comédiens. Le Barbier de Séville est à l'Opéra de Bastille jusqu'au 29 mai, mise en scène par Colline Serrault. La Chorale du Delta en concert à Paris, et puis dans la Drôme pendant cet été. Et puis donc, vous nous avez annoncé la sortie, probablement l'an prochain, si j'ai bien compris, de votre série en 6 feuilletons. Pardonnez-moi, comme je ne savais pas que vous le tourniez, redonnez-moi une dernière fois l'intitulé de la série de films qui va sortir.
Ça s'appelle « Solution locale voilà. pour un désordre global ».
Pourtant pas compliqué. Nonobstant, était réalisé par Michel Bedos avec Ludovic Asselot et Gilles Gaillard à la technique. Augiro et Valérie Cretli ont préparé cette émission. Dans un instant, vous retrouvez Hervé Pochon pour son temps de Pochon. L'émission est accessible sur le site www.franceinter.com. On va écouter Dionysos et je vous remercie très sincèrement, Colline Serrault. À bientôt.
Merci.
Que tu allumes au creux d'un lit, pauvre Rupin, pour le plaisir qui s'y consume, dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour les pétales anonymes comme la rose du matin. Thank you, Satan. Pour le voleur que tu recouvres de ton chandail tendre et rouquin, pour les portes que tu lui ouvres sur la tanière des Rupins, pour le condamné que tu veilles à l'abbaye du Mont en l'air, pour le rhum que tu lui conseilles et le mégot que tu lui sers. Thank you, Satan. Pour les étoiles que tu sèmes dans le rebord. Et pour ce cœur qui bat quand même dans la poitrine des putains, pour les idées que tu maquilles dans la tête des citoyens, pour la prise de la Bastille, même si ça ne sert à rien.
le prêtre qui s'exaspère à retrouver le doux agneau, pour le pinard élémentaire qu'il prend pour du château Margaux, pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Thank you Satan, thank you Satan.
Pour la sépulture anonyme que tu fis à Monsieur Mozart, sans croire ni rien sauf pour la frime, un chien croque-mort du hasard. Pour les poètes que tu glisses aux cheveux des adolescents, quand pousse dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Pour la péché que tu fais naître au sein des plus raides vertus, et pour la nuit qui va paraître au coin du lit où tu n'es plus. Pour les ballons que tu fais pète dans l'après comme des moutons, pour ton honneur à ne paraître jamais dans la télévision. Pour tout cela et plus encore, pour la solitude des rois, le rire à la tête de mort, le moyen de tourner la loi. Et qu'on ne me fasse pointer et que je chante pourtant bien. Dans ce monde où les muselières ne sont plus faites pour les chiens. Thank you, Satan. You are the birdman. Thank you, Satan. Thank you, Salon. Thank you.